Amis auditeurs, bonjour. Donc, en ce mois de vacances de l'été austral de La Réunion, j'ai entrepris d'en page en partage de vous faire la lecture d'un roman qui s'appelle L'Habitant de Pierre-Raphaël Vidotte. Donc, on a déjà commencé la semaine dernière l'introduction de ce livre qui nous décrit donc ce qui se passe dans une habitation dans la fin des années 1920 à La Réunion. Donc, ça valorise notre patrimoine littéraire réunionnais, ça retrace la vie quotidienne d'une cellule économique et humaine de l'île. Et ce livre a été écrit par Pierre Vidotte. Alors, j'ai déjà dit que tout le monde connaissait le poète qui avait écrit cette chanson « Tout est joli », mais je vais aujourd'hui vous donner quelques mots de l'auteur. Pierre-Raphaël Vidotte, donc, est né le 6 juillet 1934 à Saint-Denis, à La Réunion. Il a d'abord une formation de juriste et d'économiste à l'école de droit de Saint-Denis et à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Et son parcours professionnel s'est partagé entre l'éducation nationale, où il a été moniteur d'éducation physique, à l'école centrale de Saint-Denis et au lycée Lecomte de Lille. Il a aussi été à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, où il a fait carrière en qualité de directeur général adjoint des services. Bien sûr, il a été engagé dans
Franchi.
beaucoup d'autres domaines de la vie sociale, comme le scoutisme, la famille, des actions caritatives. Il a aussi été un acteur de la vie politique, puisqu'il a été candidat aux élections locales et au conseil général de la municipalité de Saint-Denis. Et puis, bien sûr, toujours un écrivain et un poète qui nous raconte aujourd'hui donc la vie de l'habitation. Alors, l'habitation, c'est d'abord un lieu, une maison qu'il a choisi de nommer la Cressonnière. On l'a déjà présenté la semaine dernière. Et l'introduction du livre, va nous parler des différentes personnes qui habitent dans cette habitation. Nous avons déjà découvert Lala, qui est la cuisinière, Mayaman, qui est la jeune fille de la maison, qui est aussi une jeune servante, Voula, le Comorien, et puis aussi Clarel, donc qui est celui qui va conduire la voiture, on pourrait dire le chauffeur du maître. Le maître, qu'on va découvrir cette semaine, Fortuné, donc avec un nom voilà qui dit bien sa bonne fortune, lui qui dirige toutes ces personnes. Donc nous allons continuer ici notre lecture. Donc bonne écoute à tous.
Émilien. Le palefrenier ne se pressait pas pour harnacher tapageur. Après le nettoyage du parc-bœuf, de celui de la jument et des mules, le soleil aurait presque atteint la cime des araucarias du lavoir. Il mènera ensuite tapageur et sa charrette dans le fond de la rivière du Mât pour commencer à charroyer les vannes vertes vers l'atelier de préparation. Ce sera ensuite l'heure de la breloque pour les ouvrières qui ramassaient les gousses et de se reposer pour reprendre des forces pour la tâche de l'après-midi. Moment pour lui de retrouver Thérèse, la belle Catherine Claire, qui lui avait tourné la tête. Le moment étant venu, Émilien mit au fond de la charrette une botte de chou de canne, le déjeuner du bœuf moka. Il l'avait poussé en l'encourageant de la voix vers la sortie de la cour. Un guttural « yak hu » avait suffi pour que l'animal, inactif pendant toute la nuit, se précipita au petit trot, surprenant Émilien qui n'avait pas eu le temps d'attraper sa tente couverte contenant la gamelle que lui avait préparée sa femme. Il s'y précipita, prit le précieux colis et, en courant, rattrapa la charrette au moment où elle franchissait le seuil de la cour pour s'engager sur le chemin qui menait au champ de vanille. Il sauta dans le bruyant véhicule après y avoir jeté sa tente. S'accrochant des deux mains au flanc de la charrette, il se hissa jusqu'à l'avant, prit la bride et le chabouc d'une main, l'autre lui servant d'appui pour enjamber le bord avant, s'y assit et s'arc-boutant sur un des brancards, il reprit les choses en main. Un « oh » prolongé et sévère mit tapageur au pas. Celui-ci venait encore une fois de démontrer qu'il avait bien mérité son nom. Le camp où logeaient les engagés de l'habitation était constitué d'une enfilade de 7 à 8 bâtisses en bois sous tôle. Émilien y était attendu par une bande de marmailles qui se mit à suivre la charrette en demandant avec insistance la permission d'y monter pour battre un carré. Certains, sans attendre cette permission, étaient déjà accrochés à l'arrière. Émilien menaça les ravageurs du manche de son chabouk et stoppa tapageur. La manœuvre surprit, et comme une volée de moineaux, les enfants s'éparpillèrent dans les fataques du bord du chemin, tentant de s'y cacher. Émilien, magnanime, nomma alors quelques enfants, lesquels, montrant une mine réjouie, sautèrent en criant leur joie dans la voiture enchantée. Pour leur plus grand plaisir, Émilien enfourna le bout du manche du chabouk sous la queue du bœuf, qui se mit au galop, entraînant la cargaison d'yeux et de sourires émerveillés. Les laissés pour compte escortaient l'équipage joyeux et bruyant. Ils couraient et poussaient des cris mêlés de certains jurons. Émilien débarqua la marmaille, là où le chemin descend vers la rivière. Il donna aux enfants quelques cannes qu'il oubliait toujours au fond de sa charrette. Ayant trouvé un autre motif de chamaille, les marmailles rebroussèrent chemin en s'arrachant des mains les roseaux friandises. Émilien savait qu'il s'approchait de la rivière, car le bruit que faisaient les enfants, maintenant apaisés, avait cessé, recouvert peu à peu par le chant de l'eau vive, amplifié à présent par l'écho renvoyé de l'autre rive. En effet, à cet endroit, un méandre de la rivière avait construit un véritable amphithéâtre et la rive droite, haute et abrupte, réfléchissait les sons. En bas de la pente, Émilien engagea tapageur dans le chemin qui courait sous la forêt de Filao. La liane de vanille enlace à sa base chaque arbre, au pied duquel s'active l'ouvrière. Chacune couvre un sac de vaquois étendu par terre d'un monceau de gousses vernissées dont la couleur verte, jaunissant par endroits, est le signe de leur maturité. Le champ forêt de vanille avait été créé par un débordement de la rivière lors d'une crue centennale, qui avait laissé suffisamment d'alluvions pour accueillir une forêt de filao dont la pousse rapide en faisait de parfaits tuteurs pour la liane de vanille et se prêtait à ce genre d'exploitation. Le bras sec de la rivière était maintenant très isolé de son lit, non seulement par des berges très hautes dues au creusement naturel du passage de l'eau, mais également par une véritable forêt barrière de jamrossate qui en avait pris possession. Quand il arrêta tapageur face à un jamrose où il devait l'attacher, Émilien chercha des yeux Thérèse. La charrette constituait un bon observatoire. Il ne la vit pas tout de suite. Elle était cachée par toute une rangée de filao que l'effet de perspective transformait en une véritable barrière. Les ouvrières semblaient toutes s'être donné le mot pour se cacher dans l'enfilade des troncs gris. L'implantation des gousses sur la liane avait ainsi causé cette partie de cache-cache imprévue. Thérèse s'amusait du désappointement de Milien, comme elle l'appelait. Elle choisit le moment où son admirateur était descendu de son perchoir pour montrer le bout de sa capeline ornée d'un ruban bleu myosotis. Soulagé de la voir, mais n'en laissant rien paraître, Émilien commença, comme si de rien n'était, l'inspection de la cueillette du matin. Il ne se pressait pas et mit plus de temps que d'habitude pour arriver à hauteur de Thérèse. Ainsi, tout en évaluant le nombre de cargaisons qu'il aurait à faire entre le champ et l'atelier, il excitait l'impatience de son ami. Il constata ce jour-là qu'il lui faudrait faire deux voyages pour emporter ce qui avait été cueilli et que le regard de Thérèse était plein de promesses pour une voluptueuse tiffine malgache. L'arrivée d'Émilien marquait la fin du matin. C'est dire combien sa présence était souhaitée par toutes. Thérèse avait une raison supplémentaire de se réjouir. Milien venait de lui donner rendez-vous près de la rivière où ils mangeraient ensemble. Le charretier se dirigea vers Tapageur, le détela et lui jeta un paquet de choux de canne devant les naseaux. Il prit ensuite sa tente et se dirigea vers la rivière en empruntant un sentier qui traversait la petite forêt de Jamrosa. Thérèse ne tarda pas à prendre le chemin de la rivière elle aussi, mais, comme pour sauver la face, elle prit un autre sentier. Il y avait longtemps que le manège des amoureux ne trompait plus personne. Connivence et solidarité des ouvrières étaient la règle, car certaines avaient d'autres secrets. Bien des choses se déroulaient à l'atelier même, dans le grenier, au-dessus de la salle de préparation. Thérèse. En chemin vers la rivière, Thérèse s'était arrêtée dans une courbe du sentier et, soulevant sa robe, se débarrassa d'un vêtement qui, dans les minutes qui allaient suivre, ne serait d'aucune utilité. Elle cacha sa culotte derrière une souche d'arbre, sous sa capeline au ruban bleu, et tout émoustillée, se mit à dévaler en pressant le pas le sentier en pente qui menait à une plage de la rivière. Émilien était arrivé avant elle et avait posé, à l'ombre, sa tente de vaquois. À quelques pas plus loin, mais en plein soleil, une fiole pleine de café se réchauffait naturellement, calée entre deux galets. Son feutre avait été jeté sur un affleurement de sable gris au milieu des roches. De nombreux cristaux d'olivine y laissaient leurs traces brillantes. Les pieds plantés dans le sable, Émilien ouvrit tout grand ses bras et Thérèse s'y précipita. Il ne fallut pas longtemps à l'homme pour se rendre compte que Thérèse était nue sous sa robe en fine indienne et à celle-ci pour sentir que son amant n'attendait pas longtemps le moment de lui montrer combien il la désirait. Thérèse défit la ceinture de l'homme et d'un coup sec, elle tira sur la lanière de cuir, libérant ainsi les reins de son amant, qui ne fait aucune tentative pour retenir son pantalon qui glissait lentement jusqu'à ses chevilles. Quand son sexe pénétra Thérèse, il était encore debout au milieu de la plage à Olivine. Les amants s'y laissèrent tomber. Leur étreinte fut aussi brève qu'était intense le désir qui les avait enflammés. Le chant de la rivière couvrit à peine leur râle de plaisir. Ils découvrirent alors que le sable était chaud et qu'ils étaient heureux, enlacés, à l'abri d'une énorme roche de la rivière. Thérèse alla se tremper les pieds dans le courant de l'eau vive et profita de l'occasion pour se rafraîchir les cuisses. En se couvrant la tête du bas de sa robe, elle se baigna et vint se lever à nouveau dans les bras de Milien, qui l'attendait, assis auprès de sa tente ouverte, d'où il sortit une assiette en émail. Tous deux plongèrent alors les doigts dans le carry, les grains et le rougail, ce qui apaisa leur appétit, aiguisé par leurs ébats. Vint le moment où Émilien voulut siroter le café qu'il avait mis au soleil. Il trouva, au fond de sa tente, sucre et petite cuillère. Il voulut prendre la fiole et ne la trouva pas. Thérèse, d'un air très malicieux, lui déclara « Café pas encore chaud ?» et retroussant sa robe à hauteur du pubis, elle dévoila l'objet qu'elle maintenait encore entre ses cuisses rondes. Milien s'empara de la bouteille pour la mettre à l'abri, puis il étreignit une nouvelle fois Thérèse en la basculant sur le sable. La femme sentit l'homme la fouiller de son sexe. Elle se retourna et prit le dessus. La douleur que lui faisait le sable qui lui griffait le dos n'était rien comparé au plaisir que lui donnait Thérèse. Il vit la crête du morne de la rivière du Mât basculer derrière la chevelure de sa maîtresse et ferma les yeux sur la violence du plaisir. Quand il les rouvrit, Thérèse continuait à le chevaucher et prenait à son tour sa douceur. Thérèse courut une nouvelle fois à la rivière, mais ses gestes pour se rafraîchir n'eurent plus le même effet sur Milien. Ses sens apaisés, il était moins attiré par elle que sensible à la beauté de sa belle Catherine, jouant avec l'eau de la rivière et la recueillant dans ses mains jointes pour s'en désaltérer. Il fit de même et, s'approchant de sa maîtresse, lui plaqua un baiser fougueux sur le cou, puis sur les lèvres, toute fraîche encore de la caresse de l'eau. Ils burent enfin le café, qui avait eu tout le temps de se réchauffer. Chacun à son tour porta ses lèvres au bord de la tasse. Le sucre qui restait au fond adoucit leur langue, emmêlée dans un long baiser. Quand Thérèse arriva en retard pour reprendre la tâche de l'après-midi, l'absence d'Émilien avait été remarquée. Aussi le charretier, en rentrant à l'habitation avec son troisième chargement, redoutait-il de passer devant la fenêtre de la cuisine où, à 7 heures, Lala commençait la préparation du dîner. En s'approchant des gros bananiers qui marquaient l'entrée de la cour, Émilien pensait avoir droit à l'ironie de la cuisinière sur ses amours champêtres. Elle ne manquerait pas également de faire quelque allusion aigre-douce sur le tempérament de Thérèse. Le lavoir. Le lavoir était implanté sur un petit tertre à la limite de la grande étable. C'était un édifice dont les 4 poteaux de ciment armé supportaient un toit en tôle. Il abritait un réservoir, 2 bassins et une pierre à laver, large et lisse, dont la pente était orientée vers le parc. 2 robinets, fixés dans une sorte de borne en béton, desservaient les bassins, encadrés par 2 immenses araucarias. Ils étaient visibles de la grande route, à hauteur du pont de la rivière du Mât. Constamment renouvelée, l'eau arrivait par une tuyauterie dont le tracé assez fantaisiste l'amenait du canal de dérivation de l'usine électrique. Émilien passa sa tête sous l'un des robinets, s'ébroua et, retroussant son pantalon, jeta de l'eau sur ses pieds, les frottant l'un contre l'autre. Il termina l'opération sur la pierre à laver, une tache de boue particulièrement récalcitrante, nécessitant un frottement vigoureux de ses 2 mains. Il traversa la cour et rencontra Voula, qui commençait sa fonction de veilleur de nuit. Le soleil venait de se cacher derrière le Mazerin. Les 2 hommes se croisèrent en se saluant de la voix. La vanille. Avec la vanille qu'il avait transportée aujourd'hui, l'atelier en aurait suffisamment pour la préparation du lendemain. Il déchargea la charrette dans le local contigu à l'atelier d'ébouillantage et libéra Tapageur qui, connaissant le chemin, traîna son fardeau brinquebalant et bruyant vers le parc en bordure du verger. Elle arrivait des champs, la vanille mûre, la vanille verte mûre, la vanille bonne à la préparation de l'atelier. La charrette, tirée par Tapageur, s'entendait de loin. Les bandages métalliques de ses roues crissaient sur les galets du chemin. Les vanilles cueillies dans le champ, en bordure de la rivière du Mât, partageaient là leur vie avec le chant de l'eau et des oiseaux qui y étaient très nombreux, attirés par la fraîcheur du lieu et la présence de la rivière. Oiseaux béliers, martins, bec rose, pigeon ramier, serin, qui choisissait la cime fragile et flexible des filaos pour balancer dans l'air clair, azur, la boule de leur plumage d'or. Elle arrivait de la rivière du Mât, la vanille pleine de promesses de senteur. Les ouvrières qui l'avaient cueillie délicatement et l'avaient posée doucement dans les sacs en vacquois étalés comme tapis entre les rangées de filaos tuteurs. Les grappes de gousses luisaient étendue entre les galets ou accrochée encore à la liane qui se lobait à mi-hauteur de son tuteur pour redescendre et ainsi mieux s'offrir à la main des femmes qui les caressaient avant de les arracher de leurs tiges. Elle s'offrait, les gousses de vanille, aux doigts des ouvrières sans lesquelles elle resterait des appendices inutiles. Longtemps sa fleur s'était desséchée, sans donner la vie à ces gousses qui luisaient dans l'ombre claire des forêts de Philao ou de Pandanus. Il avait fallu le hasard ou la providence pour qu'Albus et son maître trouvent le moyen de déflorer la belle orchidée. Résultat d'une vengeance ou d'une cordiale collaboration, le fruit de la vanille est ainsi le fruit de volonté patiente qui porte fleur à fleur au moyen de l'épine de cactus, le pollen qui fait gonder la fleur. Elle arrive du champ de la rivière du Mât, la vanille verte mûre. Parfois, elle arrive aussi du bord de Mille Roches. Ici, le philao porteur de vanille s'épanouit en plein champ de canne, où il forme une sorte d'oasis vert foncé dans le désert vert tendre et bleuté des feuilles de canne. On y accède en traversant les barrières des menées de roseaux géniteurs de sucre. Leur couleur est lie de vin, s'il s'agit de la M134-32, dite canne bonbon, ou jaune, si c'est la Batavia. Et l'on découvre le champ forêt de vanille lorsque la plainte du vent dans les cheveux de Philao s'impose au bruit sec, presque métallique, dû au frottement des longues lanières vertes des feuilles de canne entre elles. Ici, le chant des Philao n'est interrompu que par le cri de la poule d'eau habitante du canal qui traverse le bois, ou bien par le roucoulement plaintif d'un ramier de passage. Ici aussi, le bruissement et le clapotis de l'eau accompagnent la gestation de la vanille. Les gousses cueillies reposent ici sur un moelleux tapis de petits chiens-dents en attendant la charrette de tapageurs. Du fond de la rivière du Mât ou du bord de Mille Roches, elle arrive, la vanille, pour être préparée.
L'atelier.
Une partie des magasins est affectée à la préparation de vanille, qu'on appelle aussi l'atelier de vanille. C'est tout d'abord une sorte de chaufferie comportant un foyer cylindrique construit en ciment d'argamasse, dans lequel une grande cuve en cuivre chaudronnée est scellée. Elle est faite à la mesure de grands paniers en liane de chèvrefeuille tressée, munis de 4 anses pour faciliter la prise à deux et qui accueille les brassées de vanille verte lors de l'ébouillantage dans une eau portée à 70 degrés. Les lueurs d'un feu de bois portent au plafond et sur les murs les ombres des ouvriers qui s'affairent en ce lieu où commence la lente gestation de l'aldéhyde odorante. Après l'ébouillantage, dont la réussite dépend de la durée, les gousses iront transpirer sur des grandes claies aux mailles de lianes de chèvrefeuille. Portées par des tréteaux, elles seront installées dans la plus grande salle de l'atelier et connaîtront ensuite l'ensoleillage dans la cour arrière qu'elles quitteront au coucher du soleil tous les jours pour regagner l'ombre de l'atelier pendant la nuit dans des rayonnages qui atteignent le plafond. Quand les gousses auront pris la couleur bistre puis marron, ce sera le signe évident de la présence de l'aldéhyde méthyle protocatéchique, identification chimico-barbare du parfum de la magique aldéhyde. Sa tente vide sur l'épaule, Émilien essaya de traverser discrètement la zone d'observation de Lala. il fut à peine surpris d'entendre la vieille servante lui proposer un verre d'eau sucrée qui transpirait sa buée, indice certain qu'elle provenait de la gargoulette. Aucun sarcasme, aucun sous-entendu. Émilien, cependant, eut droit à une belle leçon de morale. Les mérites d'Adeline, sa compagne, qui lui avait donné de beaux enfants, furent exposés et loués pendant au moins 10 bonnes minutes. Il l'écouta patiemment, et après avoir avalé d'un seul trait l'eau sucrée, il fit claquer son chabouc. Car Tapageur, sur le chemin du parc, avait rencontré une belle touffe de gros chiens-dents qu'il broutait. Le bœuf tira sur les brancards. La charrette s'ébranla. Émilien la suivit. C'était l'animal qui conduisait maintenant le charretier. Son feutre rabattu sur le front, le chabouc sur l'épaule, la manche pointée vers l'avant, Émilien, fatigué et fourbu par cette laborieuse et excitante journée, traînait les pieds. La longue lanière de cuir tressé traçait sur la poussière de la cour une traînée qui serpentait au rythme de son pas. Songeur après les propos de Lala, il eut la velléité de quelques bonnes résolutions pour l'avenir. Encore fallait-il que Thérèse cessât ses provocations. Pourtant, quelle était douce l'eau de la rivière du Mât, bue à la coupe des lèvres de la belle Catherine. Un meuglement étouffé de Tapageur le rappela à la réalité. Il détela le bœuf, le poussa hors des brancards et fit basculer la charrette sur l'arrière. Il le débarrassa de son harnais, chargea celui-ci sur son épaule et alla le ranger dans un cabanon attenant au parc. Il accrocha son chabouc à un clou figé derrière la porte et la referma. Il prit une bonne brassée de paille sèche pour refaire la litière du bœuf, l'étala par terre sur le monticule de bouse et de feuilles de canne et installa Tapageur dans son parc. Il alla chercher 2 fer-blancs d'eau qu'il vida dans l'abreuvoir et jeta dans les pattes du bœuf 2 bottes de choux de canne fraîchement coupés. Comme pour remercier Émilien, un souffle puissant sortit des naseaux du bœuf moka. Tapageur reçut 2 claques sonores sur sa croupe. L'animal laissa Émilien sortir de son antre sans broncher. Le charretier empoigna sa tente restée suspendue à l'arrière de la charrette. Il la jeta par-dessus son épaule et alla au lavoir pour faire une toilette sommaire avant de rejoindre sa case.
Alors ces chapitres nous montrent que Pierre Vidotte connaît bien le tissu agricole réunionnais et son fonctionnement avec le charretier, avec la vanille. Il a aussi composé cette chanson qui décrit un autre personnage que vous connaissez sans doute, donc Tiangelo, donc un Sega aussi de la Réunion. Je vous propose une petite pause musicale avant la reprise de la lecture.
D'Angelo, t'es habite Saint-François Brûlé. D'Angelo, c'était un vendeur jazzelé. D'Angelo, tout seul au lit des plantes fleurs. D'Angelo, n'avait point personne dans son cœur. Pourtant un jour, il a descendu dans ce grand Saint-Denis pour aller vendre dans son panier d'hortensias azalées. D'Angelo, dans le rayon, des guettes à lune, tant que fait son fion. D'Angelo, la descente bien content. D'Angelo, rite samedi 4h moins le quart. D'Angelo, pose son panier dans le grand bazar. D'Angelo, boire un peu sans qu'on est fatigué. D'Angelo, la partie boire un petit café. Mais qu'au sac l'arrive Angelo, voilà que son cœur mal dans son dos, son jambi flanche. Voilà que l'IAM Madrid est là, là, pas trop loin. Ni la poguette à toi en point. Ni la souris, alors qu'elle a dit oui. D'Angelo, la mettre son panier sur son dos. D'Angelo, avec Madrid la monte là-haut. D'Angelo, pour tout éradier, on l'a pas dit. D'Angelo, les est bien heureux, la pavonie. Ton petit casier t'en a doué, manduit t'a fait cuit t'en manger. Ton très chouchou sera bien arrosé. Dans le fil là-haut, il fait bien frais. Petits oiseaux verts dans la forêt, m'a fait concert, vous autres toute la journée. D'Angelo la mettre son panier sur son dos. D'Angelo avec Madrid la monte là-haut. D'Angelo outre le lion l'a pas dit. D'Angelo les bienheureux la point poli. Ton petit casier t'en a tué. Madrid t'a fait cuit ton manger. Mon treille chouchou sera bien arrosé. Dans le fil là-haut il fait bien frais. Petits oiseaux verts dans la forêt. T'en fait concert. Toute la journée.
Fortuné. La grande verrière de l'étage blanchissait à l'approche de l'aube. Bientôt elle laisserait passer le soleil. On entendrait alors le cliquetis de l'argenterie sur les petites tasses de porcelaine annonçant l'approche de Mayamam apportant le café à Fortuné dans sa chambre. Tout dans la chambre dénotait que la nuit de Fortuné n'avait pas été paisible. D'abord, cette odeur froide de cigarettes, des indianas, dont les mégots remplissaient le cendrier placé sur la table de nuit. La fenêtre donnant sur le verger ouverte et la lampe de chevet encore allumée. C'est ce que découvrit Anne-Marie quand, après avoir frappé discrètement à la porte de la chambre de son père, elle entendit celui-ci l'inviter à entrer d'une voix éraillée et pâteuse. Il était assis et appuyait sa tête au montant verni du lit. L'attitude devait être habituelle, car à cet endroit, le vernis était de teinte plus mate et plus foncée. La montre y était suspendue, au bout de sa chaîne, à un motif sculpté en forme de campanile. Quand elle s'approcha pour donner un baiser à son père, Anne-Marie vit qu'elle marquait 6h20. Elle avait dans les mains les vêtements que son père devait porter aujourd'hui. Une chemise en fine popeline blanche et, sur un cintre, un costume de tussor, une cravate assez sombre y était accrochée. Ce choix pouvait être remis en question à la dernière minute par Fortuné. Anne-Marie ouvrit la grande armoire à glace, accrocha dans la partie penderie le costume et déposa sur une chaise la chemise installée dans ses plis. Elle approcha ensuite au pied du lit une autre chaise qui faisait partie du mobilier de la chambre et qui lui était assortie et engagea la conversation. Elle n'abordait jamais les sujets qu'elle savait le préoccuper et lui rendait compte de la vie quotidienne de la maison, de la prochaine arrivée des garçons pour les vacances, de la dernière dispute entre Voula et Lala, des projets qu'elle avait pour les vacances de ses jeunes frères, pique-nique, partie de pêche à la rivière, nettoyage du canal d'alimentation de l'usine électrique, vraiment le clou des jeux des vacances, la plus intéressante des pêches. Son père lui savait gré de ne pas le questionner sur les affaires qui le préoccupaient. En effet, ce n'étaient pas les sujets qui manquaient. Sa prochaine intervention à la Chambre d'agriculture sur les sous-produits de la trituration de la canne, notamment la guerre qui s'annonçait sur le partage des rhums, tafia et alcool, la négociation de la prochaine campagne avec les usiniers,
la négociation de ses sucres avec le commerce de Saint-Denis, la modernisation du réseau électrique de Saint-André, réclamé à corps et à cri par les électeurs saint-andréens. Il était aussi maire de la commune depuis 5 ans, et l'électricité était, avec le statut des ouvriers agricoles des habitations, les questions les plus sensibles et pour lesquelles sa vulnérabilité était réelle. Heureusement que la gestion des champs était dans les mains d'Antoine, l'économe, qui, avec son certificat d'études et la formation acquise de fortuné, donnait entière satisfaction. Aussi déléguait-il beaucoup de ses responsabilités sur lui, en attendant de voir un de ses jeunes fils s'intéresser à l'habitation pour prendre sa suite. Antoine n'était plus jeune et avait confié à son patron qu'il souhaitait acheter une propriété à Brapanon pour faire de la vanille. Tous ces problèmes, Fortuné les maîtrisait relativement bien. Mais ce qui le tracassait particulièrement était celui des ouvriers agricoles, bien défendus par le publiciste Virapin, lequel, électeur à Saint-André, le menaçait à la mairie. Par ailleurs, en dépit du dernier engagement d'un nombre important d'entendroyes qu'il avait effectué, il était obligé d'embaucher de plus en plus de journaliers, surtout en préparation de la coupe qui promettait d'être bonne cette année. Une grève en cette période aurait été catastrophique. En effet, Virapin prônait la grève non seulement dans les réunions qu'il organisait, mais également dans les colonnes de son journal « Le Travailleur agricole » qu'il diffusait toutes les semaines à des centaines d'exemplaires. Cela ne le gênerait pas dans les premiers contacts qu'il prenait à partir d'aujourd'hui avec les sucreries coloniales pour la prochaine coupe, car tous les professionnels du sucre étaient logés à la même enseigne. Les usiniers, pour leur faisance valoir directe, comme les planteurs pour l'exploitation de leurs champs. Mais la menace d'arrêt du travail était une épée de Damoclès imprévisible, d'autant plus que les revendications annoncées, mensualisation, abandon de la paye à la tâche, sauf convention express et bien sûr augmentation des salaires, étaient des prétentions qui remettaient en cause toute prévision. Et puis, sur le plan familial, il y avait cette résistance d'un de ses fils qui, après s'être marié contre son avis, avait engagé une procédure pour obtenir sa part et l'ouverture de la succession après la mort de Mathilde, sa femme, le mariage étant conclu sous le régime de la communauté. Sur ce point aussi, les choses étaient imprévisibles et commandaient des tactiques et des supputations qui avaient meublé ses réflexions depuis environ 2 heures du matin. La tisane de sensitive préparée par sa fille et posée sur la table de toilette n'avait pu faire revenir le sommeil. C'est avec un réel plaisir qu'il entendit Mayamam frapper à la porte de sa chambre. Dès que la servante eut ouvert la porte, l'odeur du café se répandit dans la pièce, effaçant presque celle plus tenace des mégots d'Indiana. Comme si elle voulait jouir pleinement d'un de ces rares moments d'intimité qu'elle partageait avec son père, et pour effacer un détail qui l'entachait, Anne-Marie prit le cendrier et en jeta le contenu par la fenêtre qui s'ouvrait sur le verger. Mayamam, d'un geste lent, offrit le plateau en bois de rose incrusté de motifs de nacre que l'on devinait à travers le voile fin du napperon brodé de jour de Sillaos.
deux tasses minuscules d'un service à moka en porcelaine bleue, la cafetière et le sucrier de la même matière furent ainsi présentés. Anne-Marie mit un point d'honneur à servir son père, tandis que Mayamam, courbé ainsi qu'un fin roseau, immobile, s'était penché vers Fortuné, dont le visage frôlait celui de la servante, y respirant un parfum discret de violette, celui de cette savonnette qu'un de ses fils lui avait rapportée de la ville en guise de présent. Fortuné et sa fille prirent en main leur tasse. Mayamam se redressa et se déplaça vers la table de toilette pour y déposer le plateau. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Pendant un très court instant, le soleil entra dans la chambre. Un de ses rayons caressa la chevelure de l'Indienne, y déposant un reflet moiré. Fortuné se rendit compte de la réelle beauté du visage de Mayamam quand celui-ci, éclairé par la lueur du jour, se révéla dans l'embrasure de la porte pendant que la servante la refermait doucement. En silence, le père et la fille dégustèrent pensifs le breuvage délicieux et parfumé. Ils étaient impressionnés par l'apparition de la belle servante et ses manières élégantes et discrètes. Tous deux savaient les liens qui existaient entre elle et l'un des fils de la maison, et Fortuné comprit que l'on pouvait éprouver de l'attirance pour elle. Ces pensées traversèrent leur esprit le temps de la dégustation du café. Fortuné tendit sa tasse vite à sa fille, qui la déposa avec la sienne sur le plateau. Puis elle s'en saisit, souhaita une bonne journée à son père, avant de quitter à son tour la chambre.
Les ablutions matinales. Après avoir consulté sa montre qui marquait 7 heures, Fortuné se débarrassa de la veste de son pyjama en se dirigeant vers la table de toilette. Comme presque tous les meubles de la Cressonnière, elle était en pichepin et son plateau, en marbre de Carrare, supportait une cuvette et un broc en porcelaine blanche rempli d'eau. Il versa l'eau dans la cuvette et prit son blaireau et un bol de verre qu'il retira du tiroir de la table. Il y mit de l'eau. Le pain de savon à barbe dans une main, le blaireau dans l'autre, il confectionna la mousse à raser en frottant le blaireau humide sur le savon en l'agitant dans le bol. Une masse floconneuse et dense s'y amassa. Fortuné leva les yeux vers le miroir accroché au mur par son cadre de pichepin. Après avoir libéré ses mains, il les plongea dans la cuvette pour les remplir d'eau dont il s'aspergea copieusement le visage. Puis, il le fit presque totalement disparaître en y répandant la mousse à raser. Seul son front et ses yeux restaient visibles. Alors, il fit glisser à nouveau le tiroir, y prit une boîte plate et noire et l'ouvrit après avoir actionné un fermoir en cuivre. Dans un étui de toile rouge qui en tapissait l'intérieur, le couteau se cachait. L'arme redoutable s'installa rapidement dans la main de son propriétaire. La lame saisie fermement, entre pouce et auriculaire, était immobilisée par les 3 autres doigts. Le manche noir jouait librement dans la paume de sa main. Le tranchant orienté vers le bas n'était pas encore prêt à effectuer son office. En effet, un piton de cuivre fixé au bois du mur portait une sangle de cuir assez large. Une de ses faces était noircie par une matière brillante, une pâte d'émeri. D'un geste sûr, Fortuné tendit la sangle de sa main gauche. Avec celle qui portait le couteau, il aiguisa le tranchant de la lame en lui donnant un mouvement de va-et-vient régulier et rapide pour affiner le fil du rasoir. Changeant l'orientation de la lame dans sa main, le tranchant vers le haut, Fortuné testa le rasoir en rectifiant un de ses favoris. Il le jugea bon à l'emploi. En fixant son image dans le miroir, il fit une grimace qui recouvrit sa lèvre supérieure de sa lèvre inférieure, ce qui eut pour effet de tendre la peau de son cou. Il trancha alors dans le masque de mousse blanche au niveau de la gorge et remonta jusqu'au menton. Le rasoir balaya le visage selon un ordre bien défini. Après le cou, les joues et, plus près du nez, l'approche de la moustache devenait délicate. Le couteau allait et venait de la figure de l'homme à un récipient en caoutchouc rouge où l'instrument se débarrassait de la mousse et des poils qui y étaient piégés. Bientôt, les traits de l'homme réapparurent. La séance était terminée. Le rinçage apporta sa fraîcheur à la peau et la friction à la lavande Yardley par ses picotements mit la dernière touche à l'opération. Fortuné mit sa robe de chambre et se dirigea vers les cabinets d'aisance. Ses pantoufles effleuraient le parquet dans les couloirs et provoquaient une sorte de bruissement que le craquement de certaines planches de natte troublait. Ainsi, son parcours étant révélé à tous les autres habitants de la demeure, il était sûr de ne pas être dérangé pour ce qu'il avait à faire. Il s'avança vers une fenêtre qui donnait sur la cour arrière et assista aux manœuvres de Clarel et de la Prima Stella. Il revint sur ses pas pour atteindre en quelques enjambées une porte aux vitres peintes. Derrière la porte, un palier, puis deux marches, permettait l'accès au trône. Il ouvrit la fenêtre et s'installa. De cet observatoire, il découvrait le panorama qui s'étendait depuis le parc aux bœufs jusqu'aux mornes de Brapanon, les gorges de Salazie et le Mazerin. Le temps était au beau. Une journée de travail de Fortuné. Clarel et Lala étaient très attentifs au seul bruit qui, à ce moment de la journée, provenait de la maison. Aussi faisaient-ils très attention au ton de leur conversation pour pouvoir entendre, comme tous les matins, les mouvements et déplacements de Fortuné que le plancher trahissait quand il était chaussé et que le bruit sec de ses talons réveillait tous les habitants de la Cressonnière. Ils se séparèrent dès que le son des chaussettes musicales devient plus sourd en entamant les premiers degrés de l'escalier. Dès lors, Clarel alla se mettre en place auprès de sa machine et Lala transporta sous la petite varangue du nord-est la bouilloire de lait chaud toute fumante, la boîte de beurre salé Bretel, du pain, l'équivalent de deux bonnes tartines, et la cafetière brûlante qui rejoignirent le sucrier sur un guéridon. Fortuné s'y installa sous l'œil à la fois bienveillant et vigilant de la cuisinière qui assista au goûter du maître. C'est souvent ce moment qu'elle choisissait pour s'assurer que l'information sur les besoins exprimés auprès de mademoiselle en matière de vivres de base, sel, graisse, huile, riz, grains, etc., l'avait bien atteint. parfois Fortuné récriminait pour une commande qui, à son avis, semblait trop importante. C'était en effet lui-même qui achetait en gros auprès des négociants de Saint-Denis ses marchandises, sous caisse ou en fer-blanc, entreposées ensuite à leur livraison par mission spéciale de Clarel dans le Godon. Parfois, mademoiselle accompagnait son père en arrivant un peu à l'improviste pour ne pas perdre le contrôle des affaires domestiques. Lala s'éloignait alors et revenait rapidement avec une cafetière remplie et servait à la nouvelle arrivante une tasse de café clair, car c'est elle qui mesurait, dans le courant de la journée, les effets de la nervosité plus ou moins grande de sa maîtresse. Fortuné ne s'attarda pas. Son petit déjeuner terminé, il quitta la varangue arrière et se dirigea vers son bureau, accompagné de l'oreille par Clarel. Les pas, après avoir résonné dans la salle à manger, atteignirent les deux marches en bois qui menaient à la grande varangue. Deux claquements sur son dallage, puis plus rien. Le silence signifiait que Fortuné avait atteint son cabinet de travail dont le plancher était totalement recouvert par un épais tapis de cisale. Un râtelier en natte monté en croisillon, supportant des patères, accueillait deux casquettes, un casque blanc, un casque kaki, un panama et un maussan. Fortuné choisit le panama qui s'alliait bien avec son costume en tussor. Il prit un porte-document en cuir de Madagascar sur le bureau en pichepin et retrouva la varangue dont les carreaux en terre cuite résonnèrent à son passage comme derniers avertissements pour Clarel. Celui-ci ouvrit alors la portière arrière de la Prima Stella. Les pas du maître se rapprochaient. Il était dans le couloir et Clarel vit sa silhouette se dessiner à contre-jour des rayons du soleil qui pénétraient dans la varangue de l'est. Quand Fortuné déboucha en haut du perron donnant sur la grande cour arrière, Clarel le salua. Fortuné lui répondit en frôlant de son index et de son majeur joint le large bord de son panama. Puis, dévalant les six marches du perron, il s'engouffra dans la limousine et, se carrant sur la banquette de velours marron, il commanda « À la ravine creuse !» Le moteur de la six cylindres, sollicité par l'accélérateur et le pied de Clarel, fit opérer à la voiture un démarrage puissant, silencieux et progressif. Le chauffeur et le passager échangèrent un sourire complice à travers le rétroviseur.
Voilà, pour aujourd'hui, notre lecture s'achève. J'espère que ce texte vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver les podcasts sur le site de radiosudplus.re, page en partage et rediffusion, si vous voulez en avoir plus. À bientôt, à la semaine prochaine, et bonne lecture et bonnes vacances.